Bonsoir, bienvenue à ce nouveau mardi d'été public. Nous choisissons en général nos thèmes de mardi d'été public 1, 2, voire 3 mois en avance. Certains mois, je dois le dire, nous tremblons en nous disant que nous sommes passés à côté du thème qui fait l'actualité. Avec le thème de ce soir, je dois dire que nous étions relativement confiants. En choisissant de débattre du retour des impérialismes, un peu plus d'un an après le retour de Donald Trump au pouvoir, un peu moins de 4 ans après le début de la phase de haute intensité dans l'agression de la Russie envers l'Ukraine, et alors que la Chine mène régulièrement des exercices d'encerclement de Taïwan, nous étions sûrs de ne pas nous tromper. Nous avions assisté à l'enlèvement de Nicolas Maduro par les Américains, mais pas prévu la tension autour du Groenland ces dernières semaines et de l'Iran ces jours-ci. Et nous savions que la question de la position de l'Europe dans ce chaos était forcément au goût du jour. Je ne sais pas si vous avez lu le discours qu'a prononcé hier Mario Draghi, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne à l'Université catholique de Louvain, où il recevait le titre de docteur honoris causa hier. Il est disponible sur le site internet de la Croix dans la rubrique à vif. Ça, c'est de la pub gratuite. J'en lis un extrait. De tous ceux qui sont aujourd'hui pris entre les États-Unis et la Chine, seuls les Européens ont la possibilité de devenir eux-mêmes une puissance. À nous donc de décider. Restons-nous simplement un grand marché soumis aux priorités des autres ou prenons-nous les mesures nécessaires pour devenir une puissance? Et Mario Draghi appelle les Européens à s'engager dans ce qu'il appelle un fédéralisme pragmatique pour s'affirmer comme une véritable puissance. Certes, être une puissance ne veut pas dire avoir recours à la force pour imposer son point de vue. Mais même Mario Draghi ouvre des pistes de réflexion. Y a-t-il vraiment un retour des impérialismes? Est-ce que la défense du droit international est audible par des puissances qui recourent à la force brute? Et faut-il choisir entre la force et le droit? Pour en parler ce soir, nous avons la chance d'avoir 3 spécialistes très complémentaires. Honneur aux dames, Laurence Nardon, vous êtes responsable du programme Amérique à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Michel Duclos, vous êtes ancien ambassadeur et conseiller spécial géopolitique et diplomatie à l'Institut Montaigne. Et général Dominique Trinquant, vous êtes ancien chef de la mission militaire à l'ONU. Je vous propose de commencer par vous, Michel Duclos. Si vous pouvez nous dresser la situation actuelle, où est-ce qu'on en est? Est-ce que on assiste vraiment à un retour des impérialismes, ou est-ce que c'est vraiment seulement une manifestation plus évidente aujourd'hui de...
Merci beaucoup d'abord de m'avoir invité. Je reprendrai encore plus haut, si vous voulez, mais très rapidement, le droit et la force, pour rappeler que le droit, c'est toujours le produit de la force, c'est le plus fort qui dicte le droit, naturellement, mais en même temps,
oui, calez le micro.
En même temps, le droit encadre la force. Et vous avez introduit le mot dans les pays, dans les systèmes un peu réglés, bien sûr. Et vous avez introduit l'impérialisme. Le propre de l'impérialisme, c'est qu'il utilise la force pour accroître sa puissance. Mais même l'impérialiste, même l'empereur, s'impose quand même certaines règles de droit. Et vous voyez, quand vous entendez M. Trump dire « la seule limite » à l'emploi de la force, c'est ma moralité, là, vous vous rendez compte que vous êtes dans quelque chose d'autre qu'un État réglé, comme on le connaît depuis les cités grecques et depuis Rome. Et donc, il faut traiter le sujet, comme vous nous y invitez, en fonction de l'actualité. Mais là encore, pour remettre les choses en perspective, nous avons vécu pendant des années selon ce qu'on appelait l'ordre libéral international, c'est-à-dire l'ordre qui avait été fondé par les États-Unis principalement à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et qui reposait effectivement sur un système de normes. Et là, je vous ai apporté une citation de Rousseau qui avait parfaitement anticipé dans du contrat social le monde dans lequel nous avons vécu. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. Et c'était exactement ça le régime dans lequel nous avons vécu pendant quelques décennies. Bien sûr, il y avait un hégémon qui était les États-Unis, mais il avait transformé sa force en droit et il avait convaincu le monde, en tous les cas le monde libre, que son devoir était de respecter les règles qu'il avait édictées, avec, dont il s'affranchissait lui-même régulièrement, mais c'était au nom justement de sa capacité de gendarme du monde qu'il avait créé. Et ce qui s'est passé depuis quelques années, est-ce que M. Carney, le Premier ministre canadien, a parfaitement résumé à Davos il y a quelques jours, c'est que les Américains eux-mêmes ont considéré que ce système qu'ils avaient créé se retournait contre eux. À tort ou à raison, hein, on pourra revenir là-dessus, mais qu'ils ne se considéraient plus comme les garants de l'ordre régi par des règles. Et à partir de ce moment-là, effectivement, la boîte de Pandore était ouverte pour tous les impérialismes. On peut dire d'ailleurs que, effectivement, Trump a été celui qui a vraiment mis en œuvre ce nouvel ordre, ce nouveau désordre, cette rupture avec l'ordre ancien, mais que le ver était déjà dans le fruit depuis un certain nombre d'années. Et là, vous avez un auteur qui s'appelle Hassan Salameh, qui lui-même avait parlé depuis longtemps de la dérégulation de la force. Notamment lorsque on avait lutté contre le terrorisme en ne respectant plus la souveraineté des États, quand les États-Unis s'arrogeaient le droit d'envoyer des troupes, ou plus exactement de bombarder un peu partout dans le monde, et lorsque les mêmes États-Unis ont envahi l'Irak sans respecter la règle qui voulait qu'on passe par le Conseil de sécurité pour avoir recours à la force. Et les Russes, qui sont des grands imitateurs, se sont dit « pourquoi pas nous ?» Et c'est eux-mêmes aussi se sont mis à intervenir dans leur environnement proche, dans leur étranger proche, sans plus respecter le droit international. Alors, j'ai ouvert quelques tiroirs sur lesquels on pourra revenir, hein. Est-ce que l'Europe peut réagir contre cela? Je crois que l'Europe peut réagir à condition de se percevoir elle-même comme une puissance, comme l'a dit M. Draghi, parce que le droit sans la puissance, c'est très difficile à concevoir, sauf à être sujet, sauf à obéir aux autres. Et donc, dans un système chaotique, ça veut dire en réalité être soumis soit aux États-Unis, soit à la Russie, soit à la Chine d'un autre point de vue, du point de vue économique. Comment est-ce qu'on peut rétablir un espace de droit? C'est une autre question, mais comme je crois que j'ai parlé les 10 minutes, je vais laisser mes collègues répondre.
Madame, les États-Unis sont régulièrement accusés d'user de leur puissance militaire de manière unilatérale. Est-ce qu'on peut parler d'un impérialisme américain ou est-ce que Trump, de ce point de vue, est une rupture par rapport à ce qui se faisait jusqu'à présent?
Merci, vaste question. Bonsoir à tous, je suis très honorée de prendre la suite de l'ambassadeur Duclos. Alors comme je suis spécialiste des États-Unis, je vais à la fois répondre à votre question et aussi redire ce que vous avez dit, mais du point de vue des États-Unis. En effet, après 45 et encore plus après 1991, lorsque l'URSS a disparu, les États-Unis se sont vus comme les gendarmes du monde et la puissance principale à l'œuvre dans cet ordre international libéral qu'ils avaient en effet contribué à créer avec les autres alliés après-guerre, les autres vainqueurs, et qui les contraignaient en termes de droit, en termes de comportement international, mais pas suffisamment pour que le calcul leur apporter une somme négative. C'est-à-dire qu'ils bénéficiaient plus de cet ordre qu'ils n'en souffraient. Ça leur imposait quelques contraintes dont ils pouvaient s'affranchir de temps en temps, mais mettons qu'au final, ils y trouvaient leur compte, et surtout dans les années 90, qui, rappelez-vous, a été une décennie merveilleuse pour les États-Unis et pour nous, occidentaux, d'une manière générale, puisque nous avons eu pendant 10 ans l'impression, enfin, sur le moment, je ne sais pas si vous en souvenez, moi j'étais à Sciences Po à cette époque-là et on nous expliquait que la démocratie libérale l'avait emportée sur le totalitarisme communiste, c'était vrai, et que toutes les nations du monde, à commencer par les pays d'Europe centrale, étaient appelées avec joie à devenir des démocraties libérales, l'économie de marché, le respect des droits de l'homme, etc. Tout ceci semblait honnêtement merveilleux. Alors il y avait la Yougoslavie, il y avait le Rwanda, etc. Mais c'était des accidents de parcours. Tout allait s'assagir, tout allait être merveilleux. Et puis évidemment, à l'orée des années 2000, il y a eu l'arrivée de Poutine au pouvoir en Russie. On n'a pas tout de suite compris ce que ça voulait dire, mais on n'a pas tardé à le comprendre. L'entrée de la Chine dans l'OMC, qui a fait exploser la puissance économique chinoise, puissance commerciale, technologique, etc. Ce que là aussi, on a constaté un peu petit à petit, et puis évidemment le 11 septembre, ça c'était en 2001, la menace terroriste. Donc on a compris que l'apaisement du monde, c'était pas pour aujourd'hui. Mais on était encore dans une foi dans le bien fondé de la démocratie. Les puissances russes et chinoises se révélant petit à petit des puissances révisionnistes et pas vraiment démocratiques, mais on a quand même continué longtemps à penser qu'elles avaient tort et qu'elles le savaient et que tout le monde le savait. Ça ne remettait pas en cause la démocratie, le principe de la supériorité du modèle démocratique libéral sur le reste du monde. Et on mesure aujourd'hui, avec l'arrivée de Trump au pouvoir, j'ai envie de dire il y a 10 ans, parce que même pendant les années Biden, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on a continué à parler de Trump absolument tous les jours. Bref, on voit à quel point aujourd'hui les États-Unis de Trump se sont mis à saboter eux-mêmes cette notion de démocratie libérale, de supériorité de la démocratie libérale. Mais alors, vous me posiez la question de l'impérialisme. En effet, Trump, alors pas tellement pendant le premier mandat, parce que comme il le disait lui-même à l'époque, il essayait de diriger son pays et de survivre. Il était plutôt à l'époque, donc 2016-2020, en train de vouloir terminer les guerres éternelles, les guerres interminables du pays, ramener les boys à la maison et se concentrer sur la reconstruction des classes moyennes.
Et puis il n'était pas très préparé à accéder au pouvoir en plus.
Absolument, il avait été lui-même ne s'attendait pas à être élu. Mais cette fois-ci, on a vu un Trump changer totalement de pied en termes de politique étrangère, avec à la fois un activisme diplomatique désordonné, enfin avec ses projets de paix. Comme vous le savez, il a réalisé 7 à 8 accords de paix dans le monde. Bon, ça c'est d'un côté. Et puis surtout, une volonté impérialiste totalement prédatrice sur ce qu'ils appellent l'hémisphère occidental, Western Hemisphere, c'est-à-dire les Amériques, dans lequel ils mettent le Groenland. Et voilà, donc oui, il veut, je terminerai là, hein, parce que j'ai déjà parlé. Ah non, il me reste 4 minutes, mais non, pas du tout. Bref, une volonté impérialiste prédatrice qui, dans la psychologie de Donald Trump, est vraiment la marque du fait qu'il veut renouer avec les grands présidents impérialistes de la fin du 19e, qui sont McKinley, puis Theodore Roosevelt, qui sont, alors là, revenons en arrière une seconde, en fait c'est son modèle en termes d'impérialisme, ce sont les premiers présidents, donc en l'occurrence des républicains, même si le parti républicain n'était pas exactement celui d'aujourd'hui à l'époque, on est il y a plus de 100 ans en arrière, 125 ans, ce sont en tout cas les premiers présidents américains qui ont voulu donner à leur pays une présence impériale, une puissance, dominatrice dans le monde. C'est-à-dire que les États-Unis, vers les années 1860-70, avaient fini de conquérir leur territoire jusqu'à la côte pacifique. Les Indiens, le problème était réglé. La frontière du Sud et la frontière du Nord étaient également réglées. L'acquisition de l'Alaska, c'est 1867. Bref, ils sont maintenant chez eux, sur le territoire de l'Amérique du Nord, dans des frontières claires, et tout le territoire est désormais conquis, colonisé. Et c'est le moment pour eux de se tourner vers l'étranger, de se dire, ben voilà, maintenant, nous allons devenir une puissance avec des bases militaires à l'étranger, une flotte commerciale qui va dans le monde entier. Et je vous donnerai juste l'année phare de ce grand mouvement impérialiste américain, c'est 1898, une année où, alors McKinley est au pouvoir, Theodore Roosevelt est son secrétaire adjoint à la marine, et c'est l'année où il conquiert dans le côté atlantique Cuba et Porto Rico, et côté Pacifique, Guam, Hawaï et les Philippines. Une guerre sanglante aux Philippines en 1898. Et en fait, c'est avec cet héritage-là et cette histoire-là que Trump veut renouer en agrandissant lui aussi le territoire de son pays, comme l'avaient fait ses prédécesseurs de cette époque-là. Et donc là, oui, on a vraiment une volonté impérialiste, alors que nous avons bloqué, nous, Européens, sur le Groenland il y a une semaine. On va voir comment ça se poursuit. Voilà, je vais m'arrêter là. Je voudrais juste lancer un dernier terme, pour cette discussion. J'espère que vous me reposerez des questions dessus. C'est le terme qui est très à la mode en ce moment dans les cercles de discussion de politique étrangère, de politique internationale. J'espère que mes collègues seront d'accord avec moi, c'est le terme de sphère d'influence. Aujourd'hui, Trump et beaucoup de gens, voient le monde comme un monde qui est découpé en sphères d'influence, qui est un terme qui nous vient aussi du 19e siècle. À l'époque, c'était des sphères d'influence avec une puissance coloniale européenne et puis ses colonies en Afrique, en Asie, etc. Donc ça, c'était la sphère d'influence de la colonie. Et ce terme-là revient à la mode pour désigner ce que Trump veut faire sur l'Amérique, sur les Amériques. Il veut avoir sa sphère d'influence. Bon, je m'arrêterai là, mais juste teaser pour la suite. Je pense que ce terme ne fonctionne pas très bien aujourd'hui, parce que je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment parler de sphère d'influence, que ce soit pour les États-Unis, la Chine ou la Russie. Mais bon, j'y reviendrai tout à l'heure. Quant à l'Europe, nous sommes notre propre sphère d'influence à nous tout seuls. On ne cherche pas trop à aller plus loin.
Je vous pose quand même la question, parce que vous avez parlé de la doctrine stratégique de Trump qui parle de l'hémisphère occidental. Là, c'est vraiment, il caractérise une sphère d'influence.
Oui, absolument. Il dit que c'est notre sphère d'influence naturelle, donc du Canada jusqu'à la Terre de Feu. Mais justement, là où ça ne va pas, c'est que qu'est-ce que c'est qu'une sphère d'influence ? Donc, c'est si on reprend la définition colonialiste, c'est Lord Curzon, si vous voulez tout savoir, qui a utilisé ce terme en tout premier.
Qu'était-ce ?
C'était un grand diplomate américain, britannique, pardon. Il a été vice-roi des Indes et ensuite diplomate à Londres, et c'est lui qui a employé ce terme en premier, je crois que c'était aux alentours de 1905. Et donc il parlait donc de la sphère d'influence britannique pour parler de l'Inde et des colonies britanniques dans le reste du monde, pareil pour la France, etc. Ok, donc 2026, sphère d'influence américaine dans les Amériques. C'est une domination qui se voudrait politique, économique, qui se voudrait tous azimuts. Et on voit bien que ça ne marche pas, parce que même si les États-Unis veulent avoir une domination militaire et politique, donc sur le Venezuela, idéologique en Argentine, etc., dans tous les pays qui se tournent vers l'extrême droite en Amérique latine aujourd'hui, ok, mais on voit bien que le principal investisseur aujourd'hui en Amérique latine, ce n'est pas les États-Unis, c'est la Chine. Et donc, on voit bien que la sphère d'influence économique n'existe pas ou n'existe plus pour les États-Unis sur cette fameuse Amérique latine. Et donc, je ne crois pas que ce terme de sphère d'influence fonctionne. Voilà. Donc ça, c'est juste pour les Amériques. Mais je pense que c'est pareil si on parle de la Chine et de la Russie.
Simplement, on voit que Trump essaye de mettre la main sur le pétrole vénézuélien. Lequel pétrole était principalement destiné, principalement destiné à la Chine.
Oui, mais ça c'est juste sur le pétrole vénézuélien. Tout le reste du continent a des investissements chinois absolument massifs par rapport aux États-Unis. Et quant au pétrole vénézuélien, on sait qu'en réalité les infrastructures sont très abîmées et que les entreprises américaines ne sont pas prêtes à investir et importer ce pétrole. En fait, c'est pas une très très bonne idée d'un point de vue économique.
Oui, les patrons de Chevron et compagnie ont assez mal réagi quand Exactement. Il leur a dit investissez au Venezuela, effectivement. Oui. Mon général, l'Europe affirme défendre le droit international. Depuis votre expérience à l'ONU, est-ce que ça a encore un poids face à des puissances décomplexées dans l'usage de la force?
Merci bien. Alors, comme vous avez fait parler le militaire en dernier, vous dites qu'il va vous parler de force. Et j'ai apporté ce que je n'oserais pas appeler une Bible en ces lieux, mais qui est
petit livre
la
bleu.
Bible du droit international, la Charte des Nations Unies. Un clin d'œil pour l'ambassadeur Duclos avec lequel j'ai été à New York. Alors, cette Charte des Nations Unies, en fait, elle est le produit de la force. Elle a été mise en place en 1945. Je rappelle qu'à l'époque, il y avait 50 membres, 50 membres à l'ONU, 5 membres permanents, qui sont toujours les mêmes, avec un incontestable, les États-Unis, un qui était incontestable à l'époque aussi, alors la Russie, qui avait intelligemment géré les choses pour avoir l'Union soviétique avec plusieurs pays comme la Biélorussie, l'Ukraine, etc.,
parce qu'il y avait ils avaient 3 sièges à l'ONU.
Oui, bien sûr. Ouais. C'était une façon d'avoir plus de poids. 2 qui pouvaient être contestés, mais qui étaient présents, parce que grâce au général de Gaulle, la France était présente parmi les pays victorieux. Et puis le Royaume-Uni. Et puis la Chine, je voudrais rappeler qu'à l'époque, c'était Taïwan. C'est Taïwan en 1945. C'est pas la Chine continentale qui est présente, qui était du côté des vainqueurs. C'est assez intéressant parce que quand le président Xi a célébré les 80 ans de la victoire chinoise, bah, il prenait l'héritage de Taïwan, puisque c'était Taïwan à l'époque qui était représenté.
C'était Taïwan comme tel ou c'était le...
C'était la Chine. La Chine, c'était Taïwan. Oui. La Chine continentale,
était
République populaire de Chine, n'était pas reconnue. Elle n'existait pas. Elle a été créée en 1949, il faut le rappeler. Hein. Donc voilà, c'est juste un petit rappel. Donc je dis que c'est le produit de la force, c'est-à-dire que ce sont les vainqueurs qui ont mis en place une charte avec 50 pays. C'était il y a 80 ans, ce monde est terminé. Ce monde est terminé pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui il n'y a plus 50 pays, il y en a 193, avec des pays aussi petits que l'Inde, l'Indonésie, qui évidemment ont leur mot à dire. Enfin je cite juste l'Indonésie, mais enfin plein d'autres pays. Avec une représentation au Conseil de sécurité, toujours avec ses 5 permanents, mais par exemple dans les permanents, pas d'Africains. Continent qui explose démographiquement et qui a une importance particulière. Donc, je dis que ce monde est terminé, mais ça a été progressif. Jusque dans les années 90, en fait, vous aviez les deux blocs, l'Est et l'Ouest, qui s'équilibraient. On appelait ça l'équilibre de la terreur à l'époque. Qui s'équilibraient et qui permettaient de faire croire qu'on était dans un monde à peu près stable. On oublie un peu que, quand je parle de l'équilibre de la terreur, je parle bien sûr de l'arme nucléaire en particulier. Et quand on vous dit qu'on est membre permanent à cause de l'arme nucléaire, c'est faux. En 1945, il n'y avait que les États-Unis qui avaient l'arme nucléaire. Donc, jusque dans les années 90, cet équilibre a à peu près existé. Puis, comme vous venez de l'expliquer très justement, après les années 90, l'Union soviétique ayant disparu, fantastique. Il n'y avait plus qu'une seule puissance, les États-Unis, et les Européens s'y raccrochaient. Et puis, puisque je reviens à l'origine de la charte qui est la force, en 2001, vous vous souvenez qu'après l'attentat aux États-Unis contre le World Trade Center, il y a eu une unanimité au Conseil de sécurité pour défendre les États-Unis. Au sein de l'Alliance Atlantique, c'est la seule fois que l'article 5 a été voté.
L'article 5, c'est
la défense collective.
La défense collective.
Pour faire simple. Et donc, ça a été le début de l'opération en Afghanistan, qui donc était validée par les Nations Unies. En 2003, et à l'époque j'étais à New York, les États-Unis ont essayé péniblement d'avoir une résolution les autorisant à aller en Irak. Ils ne l'ont pas eu. Donc, ça a été la grande puissance, une des deux, qui était à l'origine de la charte, qui violait la charte en utilisant la force de façon majeure, sans autorisation du Conseil de sécurité. Eh bien, ça crée un précédent. Et vous avez, en 2007, Monsieur Poutine, qui, à Munich, à la conférence de sécurité de Munich, dit « Nous ne voulons plus de l'unilatéralisme américain et nous allons construire un monde nouveau. » Et ce monde nouveau, il s'est créé avec la force. 2007, 2008, 2014.
2008, donc ça, c'est la Géorgie.
Comment ? Oui,
2008,
la Géorgie. Ensuite,
2014,
c'est
le
la Crimée. C'est l'intervention aussi en Syrie pour soutenir le gouvernement de Bachar al-Assad. Et donc, on arrive aux crises actuelles. 2022, avec l'utilisation de la force. Parce que je rappelle qu'en 2014, c'était les petits hommes verts. C'était pas vraiment l'utilisation de la force. C'était une application des principes de Sun Tse, l'art de la guerre, gagner la guerre sans livrer la bataille. Pas un coup de feu tiré. Mais en 2022, là, erreur stratégique de sa part, hein, il pensait probablement remporter rapidement la mise. 4 ans plus tard, nous en sommes toujours là. Il n'a toujours pas réussi à vaincre l'Ukraine. Et les Ukrainiens se battent valeureusement. Et puis, vous avez signalé, donc je me garderai de venir sur le plan des États-Unis, que vous connaissez mieux que moi, mais les États-Unis considèrent que l'usage de la force est une possibilité aussi. Donc vous avez les membres permanents du Conseil de sécurité, les deux principaux, puisque la Russie est redevenue un membre où elle avait un peu disparu, qui se sont arrogé le droit de ne plus respecter la charte et d'utiliser la force. Et donc, comme le droit international reposait sur, était le fruit d'une force initiale, tout ceci est chamboulé aujourd'hui. Alors je rajoute bien sûr la Chine, qui est passée de Taïwan à la Chine continentale, et avec des moyens absolument considérables aujourd'hui, qui agit plus dans le domaine de l'économie, vous l'avez signalé à propos des Amériques, hein, de l'Amérique du Sud, c'est vrai aussi pour l'Afrique, c'est vrai partout. Donc elle a réussi, en profitant de l'OMC, de son entrée à l'OMC, et de
l'Organisation mondiale du
commerce. Voilà, et de la mondialisation de l'économie, pour devenir l'usine du monde. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup, bien sûr, de Taïwan, hein, et de sa pression qu'elle met autour de Taïwan. Mais enfin, pour l'instant, elle n'a pas franchi la barre. Hein. Mais on sent que l'usage de la force par les États-Unis, par la Chine, est quelque chose qui s'est banalisé et donc qui met en cause le droit qui avait été mis en place à cette époque-là. Alors nous, pour revenir à votre question, les Européens, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Nous, les empires, c'était la guerre. La France, le Royaume-Uni, la Russie, l'Allemagne, c'était la guerre. Donc depuis 1945, pour reparler de deux membres permanents, que sont le Royaume-Uni et la France, ils ont installé une ère de paix qui s'appelle l'Europe, avec les Britanniques dedans ou dehors, peu importe. Aujourd'hui, on voit que même s'il y a eu le Brexit, on travaille beaucoup avec eux sur le plan géopolitique. Donc, nous, on a installé une ère de paix. Et c'est un peu l'ère des bisounours. On pensait que tout était bien, qu'il y avait les États-Unis qui étaient là pour nous protéger. Donc, ça allait bien. L'usage de la force ne serait pas possible. On est en train de se réveiller de ce rêve-là et de se rendre compte que c'est plus possible. Alors, vous citiez tout à l'heure l'intervention de M. Draghi. Il va très loin, lui, hein, puisqu'il parle de transformer l'Europe en fédération. On n'en est pas là du tout. Pour l'instant, déjà, réveillons-nous. Et souvenons-nous qu'il n'y aura pas de droit et d'application de droit sans avoir la force. Ça ne veut pas dire de l'utiliser, mais sans avoir la force. Que pèse l'Europe aujourd'hui sans force? Et donc, c'est à créer. Sur le plan économique, il n'y a aucun doute. Sur le plan démographique, même si on a une démographie déclinante, on est 450 millions, les États-Unis 350 millions. On est la troisième puissance économique au monde, tout agrégé. Si on agrège tous nos budgets de la défense, on est la deuxième puissance au monde. Mais on n'est pas organisé. Donc, il faut se réveiller après, fédération pour M. Draghi, confédération, c'est un sujet de discussion, mais certainement il faut se réveiller. Voilà.
Michel Duclos, vous voulez réagir?
Peut-être d'abord sur les sphères d'influence. Parce que je ne pense pas que ce soit l'objectif de M. Trump. De toute façon, on n'a pas certainement de concept sur l'ordre du monde. Certainement que lui, ce qui l'intéresse, c'est l'ego, le fric pour lui-même et sa famille, c'est les marchés. C'est peut-être de rester dans l'histoire, effectivement, comme Laurence l'a dit, un peu étrangement, c'est les sondages, naturellement. Donc il n'a pas une vision. Je pense que c'est vrai quand même que la logique de son action, c'est bien celle de créer une sphère d'influence américaine la plus vaste possible. Est-ce que pour autant il accepterait qu'il y ait des sphères d'influence chinoises et russes? C'est pas certain. Et là, on voit que quand même, malgré tout, il continue à assister l'Ukraine. Il veut pas que l'Ukraine tombe dans la sphère d'influence russe. Et par ailleurs, il vient de transférer à Taïwan le plus grand contrat de défense de l'histoire de l'île. Et c'est d'autant plus étrange que autant son administration désigne la Chine comme le grand compétiteur, autant le Pentagone se prépare à toutes sortes d'actions violentes, éventuellement même pour défendre Taïwan, autant Trump lui-même, on a l'impression que s'il faut un jour dealer avec la Chine, il ne l'exclut pas. Et d'ailleurs, comme Laurence le sait mieux que personne, dans le récent document qui vient de paraître de notamment la stratégie de défense, pas seulement la stratégie de sécurité, mais la stratégie de défense, Taïwan n'est pas mentionné, et donc ça paraît pas comme être un scénario majeur pour les États-Unis. Donc vous voyez, là je dirais, sur ce que veulent les Américains eux-mêmes, il y a encore un point d'interrogation. Ce qui me paraît clair, c'est que Poutine, lui, depuis le début, raisonne bien en termes de sphère d'influence, au sens, alors là, le plus brutal du terme. Il y avait dans un des livres de Sylvie Kaufmann, le dernier livre de Sylvie Kaufmann.
Sylvie Kaufmann, donc éditorialiste au Monde.
Au Monde, oui.
C'est les relations internationales.
Elle raconte, elle a interviewé quelqu'un qui était président en Pologne en 2002, qui terminait son mandat. Je ne me souviens plus son nom, mais c'était quelqu'un qui venait du moule. C'est un ancien apparatchik communiste qui s'était recyclé. Et il était en voyage en Chine et il décide de s'arrêter à Moscou. Et Poutine... non seulement l'invite pour passer une heure dans son bureau, comme on se fait en train d'état, mais il le garde pendant 5-6 heures et il bavarde entre anciens apparatchiks, donc qui ont beaucoup de choses en commun. et ils refont le monde. Et à un moment donné, Poutine dit « Oui, oui, alors je veux naturellement intégrer l'Europe. Vous avez vu mon discours au Bundestag. Voilà, la démocratie, l'Europe, c'est sacré, tout ça. Bon. Mais évidemment, quand on redeviendra nous-mêmes, il faudra quand même qu'on reconstitue l'ancien URSS. » Et là, évidemment, le Polonais tend l'oreille parce qu'il dit « Mais ça s'arrête où ?»« Vous inquiétez pas. » Mais vraiment, c'est clair que Poutine n'a jamais accepté l'indépendance de l'Ukraine.
Il a dit que la fin de l'URSS, c'était la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle.
Et pour aller au-delà de cela, je crois que pendant 20 ans, Poutine a mené une politique, et pas une politique avec un objectif positif, qui était un objectif de spoiler, comme disent les Américains, de... sinon de destructeur, du moins de parasite, de type qui veut démonter le système occidental qu'on appelle, nous, le monde libéral international ou fondé sur des règles. Donc, c'était un agent destructeur du système. Mais s'il avait en tête quand même une alternative, si un jour son rêve pouvait se réaliser, ça aurait été un nouveau club de directeurs du monde, avec la Russie, la Chine, les États-Unis, peut-être l'Inde. J'avais l'habitude de dire que ce serait un nouveau congrès de Vienne, comme on l'a fait après les guerres napoléoniennes, sauf que là, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, les puissances européennes auraient été dans le rôle des puissances des principautés italiennes ou allemandes à l'époque du congrès de Vienne, c'est-à-dire dans un rôle, on était dans l'antichambre, on n'était pas dans la pièce où se décidaient les choses. Et c'était, je crois, un peu ça la vision positive du monde de M. Poutine, reconstruire le monde sur la base d'une entente entre quelques grandes puissances dont ferait partie la Russie, dont ne ferait plus partie les puissances européennes. Et là arrive Trump 1, d'abord, mais surtout Trump 2, qui donne l'impression de partager le même rêve. Encore une fois, tout ce que j'ai dit avant n'est pas éliminé. On ne peut pas être certain que Trump veuille vraiment ça. Mais quand même, quand il réunit son Board of Peace à Davos, ça se rapproche. Et dans une version antérieure du texte de la National Security Strategy, il y avait l'idée d'un comité directeur du monde avec la Russie, la Chine, les États-Unis, l'Inde, et il y avait le Japon, bizarrement. Alors ça a été
donc abandonné. Ça, c'est une version qui était préparée par l'administration Trump.
Voilà. Enfin, c'est, vous savez, comme souvent, ce genre de document, il y a plusieurs versions, puis il y a des arbitrages, et on retient tel et tel langage. Donc ça, ça avait été écarté. Notamment parce que probablement l'Inde n'avait aucune envie de se retrouver avec dans le même club que la Chine, et la Chine n'a aucune envie de se retrouver dans le même club que le Japon, naturellement. Mais peu importe, ça prouve que cette tentation d'un nouveau club de direction du monde sans les Européens existe. D'où le point auquel on en arrive tous, c'est qu'il faut que l'Europe se réveille. Si elle veut ne pas être, si elle veut être à la table, comme l'a dit M. Carnet, et non sur le menu. Et c'est bien ça le point fondamental. Est-ce que la solution de M. Draghi peut fonctionner? J'ai des doutes, compte tenu de ce que sont nos pays, quand même, et notamment la tendance populiste, nationaliste, etc. Je pense que malheureusement, il faut être plus pragmatique que ça, mais il faut certainement une Europe qui soit piloté par quelques puissances qui, elles, sont décidées à se battre. Et dans le monde actuel, c'est l'Allemagne, peut-être la Pologne, les pays scandinaves qui sont, sur ces sujets de défense, des pays sérieux, avec, espérons-le, la France, si elle est capable de se redresser.
Simplement sur les sphères d'influence. En lisant la revue stratégique américaine, ce que je trouve très intéressant, c'est que leur sphère d'influence occidentale, disent-ils, ce sont les Amériques. Il n'y a plus l'Europe dedans. l'ennemi, ça c'est intéressant aussi, c'est toujours la Russie. La Chine, c'est un compétiteur. Les Européens, on passe tout de suite au niveau en dessous, c'est-à-dire à la politique. On aime bien les Européens, parce que quand même on a été un peu Européens, mais on aime bien les Européens comme nous, c'est-à-dire des partis plutôt à droite, voire très à droite. Et donc, on voit bien que dans ces sphères d'influence, et la Russie, c'est intéressant, quand on lit bien la revue stratégique, la part de la Russie dans l'Europe, on n'en parle pas. Et même si, très certainement, le président Trump a une fascination pour M. Poutine parce que c'est un homme fort, en fait, la Russie ne compte pas. Elle compte parce que c'est une puissance nucléaire. Mais économiquement, elle n'est pas au niveau. Son armée n'est pas au niveau. Voyons où elle en est aujourd'hui. Donc elle compte parce qu'elle est nucléaire. Et parce que c'est M. Poutine. Et que quand Trump se retrouve face à Poutine, on l'a vu en Alaska, c'est un petit garçon, exactement. Comme il l'a été avec Xi, d'ailleurs, pareil, en Corée. Donc ce qu'il y a d'intéressant vis-à-vis des Européens, c'est que c'est à eux de se prendre en charge. Et de se prendre en charge comme ils veulent l'être, mais sans oublier qu'il y aura forcément des interférences, parce que politiquement, les États-Unis veulent interférer sur la politique européenne pour mettre en place des gouvernements qui leur conviennent. Et ça, c'est un sujet majeur qui, pour nous en France, dans l'année et demie, va venir, mais qui vient tous les ans, parce que comme on est 27 pays, il y a beaucoup d'élections tout le temps, hein. Donc ça arrive tout le temps. Donc c'est vraiment un sujet qu'on doit prendre en compte. Je dis pas ce choix-là ou ce choix-là, mais notre choix, et pas le choix d'un autre pays.
J'ai une question pour Laurence. La revue stratégique, Michel Duclos dit que Trump ne raisonne pas en sphère d'influence. Il n'empêche que quand même, dans la revue stratégique, ils définissent clairement des sphères d'influence. Qui est-ce qui rédige ce document et Trump, il n'y a pas n'acquiesce pas à ce document.
Il raisonne en sphère d'influence pour lui. Ça ne veut pas dire qu'il accepte les autres. C'était ça mon point.
Comment ça s'élabore un document comme
oui,
ça?
Oui, alors normalement, il y a tout un processus très formel. Là, cette fois-ci, on pense que c'est Stephen Miller qui a rédigé l'essentiel du document, donc qui a été relu. Stephen Miller, c'est un conseiller de Trump qui est un idéologue vraiment populiste d'extrême droite, très nationaliste, xénophobe, etc. C'est lui qui a rédigé ce qu'on a appelé le discours du carnage. C'est le titre qu'on lui a donné. C'est le discours que Trump a lors de son investiture en janvier 2017, donc pour son première élection, et c'était ce discours très très sombre où il présentait une lecture des États-Unis totalement apocalyptique, décrivant un pays à feu et à sang après 8 ans de Barack Obama, dans une déréliction civilisationnelle, un pays où vraiment affreux. Et ajoutait-il, après cette description totalement horrible, il ajoutait « This stops now », maintenant ça s'arrête parce que j'arrive et qu'avec moi, on va rendre sa grandeur à l'Amérique, etc. Donc voilà, c'était le discours rédigé par Stephen Miller qui a, 8 ans plus tard et quelques, rédigé la NSS, donc la National Security Strategy, la stratégie de sécurité nationale, qui a ensuite été suivi par la stratégie de défense nationale. Il y a toute une hiérarchie de textes de stratégie aux États-Unis. Donc il y a la texte de stratégie, il y a le texte de défense, et puis après ça se décline par armée, la défense nucléaire, la défense balistique, etc., tactique. Voilà. Mais si je peux ajouter un mot, justement, vous en avez touché mot tous les deux, et c'est vraiment absolument passionnant, c'est sur la relation idéologique des États-Unis à l'Europe. On pourrait dire, pour parler très rapidement, que dans les 80 dernières années, depuis la victoire de 45, en fait, à chaque fois que des dirigeants européens et américains se sont rencontrés, ils ont célébré ensemble leur entente politique, leur entente idéologique sur les valeurs. Combien de fois des présidents américains sont allés sur les plages du débarquement, rencontraient, alors évidemment le président français, puisque c'est chez nous, mais très souvent il y a eu des rencontres avec les autres vainqueurs de 1945, les puissances qui étaient présentes lors du débarquement. On a invité la Russie très longtemps dans ce genre de célébration, de commémoration, et à chaque fois, on y allait sur les valeurs des Lumières, la liberté de la presse, les droits de l'homme, et cette merveilleuse expérimentation qu'est la démocratie libérale depuis 1787, la rédaction de la Constitution américaine, la plus ancienne constitution encore en exercice aujourd'hui, qui nous vient en direct du siècle des Lumières. Donc on avait une sorte de concélébration très, très positive et très optimiste pendant toutes ces années-là. Et aujourd'hui, comme on l'a dit, on a une Amérique qui veut... moi, je pense que c'est temporaire, mais je suis toujours une optimiste. Enfin bon, en ce moment, nous avons une Amérique qui glisse vers l'illibéralisme, et cette Amérique MAGA, cette Amérique trumpienne, trumpiste, en fait, continue à avoir ce dialogue idéologique avec l'Europe, mais évidemment... Ça n'est plus un dialogue avec les libéraux en Europe, c'est un dialogue avec les illibéraux. Et donc moi qui suis les questions américaines depuis très longtemps, je suis extrêmement frappée depuis pas mal d'années en fait, depuis le premier mandat, du nombre de rencontres et d'échanges intellectuels, politiques qu'il y a entre forces d'extrême droite en Europe et forces MAGA aux États-Unis. Alors on dit MAGA, mais pendant le premier mandat de Trump, il y avait cet autre terme qui est un peu passé de mode aujourd'hui. On appelait ça la alt-right, pour dire la alternative right, enfin une sorte de nouvelle droite américaine, nouvelle droite au sens d'extrême droite, comme en France, la nouvelle droite, vous savez, le Grèce des années. Voilà. Bref, et donc ça discute énormément, ils échangent des idées, ils sont très souvent aussi accompagnés de personnes qui ont un projet religieux ultra réactionnaire. Alors c'est souvent des évangéliques, mais il y a aussi ce qu'on appelle les intégralistes catholiques, qui sont un petit peu comme nos intégristes à nous, même si le... Alors intégriste, c'est pas la même... le terme se ressemble, mais c'est pas la même racine. Enfin, c'est un petit peu pointu comme truc, mais... Enfin bon, vous voulez que je vous le dise
aujourd'hui? Allez-y, parce que c'est intéressant. Alors, un lieu catholique.
Ben oui, donc voilà. Alors quand on parle des intégristes en France ou en Europe, on fait allusion à un terme qui est employé depuis les années 1910 à peu près. On commençait déjà à dire intégriste à ce moment-là pour désigner des catholiques très réac qui disaient intégriste pour dire qu'ils voulaient que la société respecte l'intégralité de la doctrine chrétienne, la doctrine catholique. Alors, intégralité dans leur esprit à eux, donc c'était pas du tout Vatican II, vous en doutez, mais enfin c'était une intégralité de doctrine très très orientée. Lorsque les Américains autour de Trump, comme par exemple J.D. Vance, le vice-président, ou même Steve Bannon, ou enfin beaucoup de gens, des intellectuels comme un type qui s'appelle Vermeul, et puis un autre qui s'appelle Adrian Denin, je vous donne
des Vance qui s'est converti au catholicisme.
Oui, oui, il n'y a pas très longtemps, à l'âge de enfin, plus de 30 ans, je crois. Lorsqu'ils disent intégraliste, en fait, ils veulent dire avec ce terme qu'ils soutiennent un projet dans lequel le politique et le religieux sont intégrés. En fait, ils veulent mettre fin à la séparation de l'Église et de l'État, qui est quand même posée dans le premier amendement à la Constitution. Donc c'est un truc énorme, qui à mon avis n'a pas tellement de chances d'aboutir. Il ne faut pas non plus trop s'affoler. Mais bon, ils disent intégralistes pour ça. Ils veulent la fin de la séparation de l'Église et de l'État, avec évidemment le politique qui obéirait aux injonctions religieuses les plus réactionnaires. Je sais plus où j'en étais, mais moi je vais m'arrêter là. Oui, donc il y a un dialogue entre Européens et Américains à l'extrême droite de l'éventail idéologique.
Voilà. Et effectivement, J.D. Vance, quand il a prononcé son discours à la conférence de Munich, il y a un empile, il a pas vu le chancelier allemand sortant, il a pas vu le candidat qui allait gagner la chancellerie, mais il a vu la chef de l'AFD, donc l'extrême droite allemande. Il a rencontré plutôt.
C'est vertigineux quand on y pense, parce que pour un Américain, d'avoir un chancelier CDU, classiquement, bah, quoi de mieux, quoi. Il n'y avait pas plus atlantiste, conservateur sur plan des mœurs, etc. Et donc, le fait qu'ils aient choisi l'AFD, enfin que Vance ait choisi l'AFD, ça nous dit beaucoup. Et à mon sens, mais là je parle sous le contrôle de Laurence, bien sûr, ce qui est très particulier, c'est l'alliance de ce qu'on appelle l'aile civilisationnelle de cette administration et de la Big Tech.
Et la Big Tech, donc la Silicon Valley.
La Silicon Valley, version Musk, etc. Et qui, eux, veulent la mort de l'Union européenne, parce que l'Union européenne, c'est la réglementation, et donc c'est une limite possible à leur pénétration du marché européen. Et donc, s'il choisit l'AFD plutôt que la CDU, c'est parce qu'il veut la destruction de l'Europe. Et là, l'un des rares stratèges du système, Wes Mitchell, m'avait dit il y a quelques années, vous savez, pour nous, on a soutenu l'Union européenne parce que c'était très utile dans la lutte contre l'URSS à l'époque de la guerre froide. Maintenant qu'il n'y a plus d'URSS, qu'il n'y a plus de guerre froide, l'Union européenne, c'est devenu un simple concurrent commercial. Donc, on n'a plus aucune raison de soutenir l'Union européenne. Mais évidemment, des gens comme des grandes entreprises MAGA, etc., comme on le voit tous les jours, c'est pas seulement qu'ils considèrent l'Union européenne comme une concurrente, c'est qu'ils veulent la détruire. Et là, on en est là, quand même, aujourd'hui, avec Trump. Ce qui fait que pour revenir. Alors, l'aile civilisationnelle, c'est effectivement un autre phénomène. Là aussi, je parle sous le contrôle de Laurence, mais ce qui me frappe beaucoup, c'est le côté névrotique de ces gens. Parce qu'enfin, l'immigration. Vous avez vu cet éditorial, cette interview dans le Figaro d'un des ténors de la droite alternative américaine, qui disent c'est affreux parce qu'en Europe, vous avez plus de 3%, vous avez 1% d'immigration. Mais d'immigration illégale, d'immigrés non autorisés. Mais aux États-Unis, c'est plus de 3%. Et quant à l'aspect civilisationnel, ils veulent dire par là qu'il y a l'islamisme rampant, etc. C'est l'immigration plus l'islamisme. Mais au fond, oui. On a ces problèmes en Europe, naturellement, et c'est ce qui est d'ailleurs à l'origine de la montée du populisme. Enfin, on est quand même davantage resté fidèle à nos idéaux, issus des Lumières, que ne le sont des Américains qui, 250 ans après la fondation de la République, sont en train de remettre en cause l'équilibre des pouvoirs, la liberté de la presse, un certain nombre de valeurs fondamentales des Lumières. Donc là, il y a une sorte de chassé croisé ou de malentendu absolument extraordinaire.
On va peut-être passer la parole à la salle si des questions. Là devant.
Bonjour, merci de vos interventions. J'avais une question peut-être pour Laurence, parce que j'ai beaucoup de mal à comprendre la collusion qu'il y a aujourd'hui aux États-Unis entre les essentialistes, enfin les intégralistes, pardon, enfin en tout cas toute cette frange, on va dire extrêmement conservatrice, enfin fasciste, et la Big Tech qui a quand même des valeurs totalement opposées a priori. Et je comprends pas cette collusion en fait aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui se passe?
Allez-y peut-être. Oui.
C'est également sur les États-Unis. Est-ce que finalement les limites à l'usage de la force par Trump ne sont pas dans le droit de la Constitution? Vous avez cité le premier amendement, là. Il y a quand même la Constitution américaine, il va pas la changer. C'est pas possible. Donc est-ce qu'on peut pas espérer tout de même que grâce à la Constitution et à tout les juges fédéraux, hein, de voir là, arriver quand même des limites à l'usage de la force complètement démesuré de Trump.
Alors, c'est deux questions très, très compliquées. Enfin, surtout la première, en réalité. Oui, alors, mais ça, l'ambassadeur Duclos l'a déjà dit tout à l'heure, la Big Tech et les religieux sont en contradiction sur énormément de points. Alors, quand on dit la Big Tech, en réalité, il faut un peu préciser la chose, puisque c'est... OK. La Silicon Valley et les grands barons de la Silicon Valley tels qu'on les voit aujourd'hui ont longtemps été très à gauche en réalité. Ils ont surtout été des adeptes du progrès, même pour le corps humain. Hein. C'est chez eux qu'on trouve ce qu'on appelle les transhumanistes, c'est-à-dire les gens qui pensent qu'on peut améliorer tellement la médecine que les hommes, enfin les gens... ou en tout cas les happy few, hein, parce que à mon avis ce sera pas ce sera les plus riches et qui pourront devenir immortels à force de botox et de remplacement de plomberie dans le corps humain, et je pense que leur femme de ménage latino pendant ce temps-là ne sera pas du tout devenue immortelle. Bref, donc c'était ce qui les définissait au départ, et ils étaient plutôt à gauche jusqu'à ce que il y avait évidemment des exceptions déjà depuis longtemps, mais le grand tournant, ça a été sous Biden, lorsque Joe Biden, prenant un peu l'exemple de l'Europe, a tenté de réguler la tech, notamment sur les questions de contenu haineux en ligne, contrôle des monopoles, parce qu'il y a monopoles qui empêchent les jeunes entrants d'arriver sur le marché, de contrôle de la vente en ligne, enfin voilà. Il a voulu mettre un peu d'ordre dans tout cela à l'européenne, et mal lui en a pris, parce qu'en fait, tous ces seigneurs de la tech se sont dit, quand même, ça va nous faire perdre de l'argent, cette histoire, ça va nous faire perdre du pouvoir, du contrôle, etc. Et donc, ils se sont retournés comme un seul homme et se sont mis à suivre Trump. Et beaucoup d'entre eux, avec une servilité vraiment affreuse, ont financé la cérémonie d'investiture de Trump en janvier dernier. Zuckerberg, par exemple, qui se présentait jusqu'alors comme le type le plus... de Facebook, qui se présentait jusqu'alors comme le type le plus ouvert d'esprit, bon voilà, a été embrasser la bague du seigneur mafieux, enfin vraiment un spectacle honteux. Donc voilà, donc les voilà tous devenus de droite, mais et en devenant de droite, je dis ça de manière très beaucoup trop simpliste, en réalité ils sont devenus libertariens. Alors les libertariens, c'est une idéologie qui est très diverse aux États-Unis, il y en a de différentes sortes, mais pour ne parler que des libertariens californiens, parce que c'est ce qui nous intéresse, en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a du mal à les comprendre en France parce que nous n'avons pas de libertariens chez nous. Chez nous, ce qui correspond, c'est les anarchistes. Un libertarien, c'est quelqu'un qui refuse le rôle de l'État et qui veut que l'individu soit le plus libre possible. Okay. Une fois qu'on a dit ça, vous avez plusieurs branches. Nous, en Europe, on connaît les anarchistes qui sont des libertariens de gauche ou d'extrême gauche. Ils veulent pas d'État, ils veulent que l'individu soit libre, mais ils ne veulent pas de propriété privée. Proudhon, la propriété, c'est le vol. Et donc, c'est une sorte d'utopie de premier chrétien où tout appartient à tout le monde, il n'y a pas de propriété privée, on vit en communauté et c'est merveilleux. Bon, autant dire que c'est un petit peu... Enfin, c'est vraiment extrêmement utopiste. Aux États-Unis, vous avez ces libertariens qui sont de droite, voire d'extrême droite, et eux, donc pas d'État, pas de réglementation, pas d'impôts, mais en revanche, la propriété privée, l'entrepreneuriat individuel, chaque individu doit se réaliser sans aucune régulation ni compte à rendre à l'État, c'est-à-dire les impôts, mais il doit se réaliser principalement par la propriété privée et l'entrepreneuriat. Donc on est vraiment aux antipodes du système français, enfin européen, de l'anarchisme à l'européenne. Donc ces gens-là ont une vision de l'homme qui est très opposée à celle des religieux autour de Trump. Et puis aussi, notamment sur le respect du corps humain, le transhumanisme, ça va pas du tout pour les religieux. Mais aussi, par exemple, sur l'immigration, ils vont avoir des visions très différentes. Alors, non pas tant des religieux que des populistes. Les populistes autour de Trump veulent une fermeture totale des frontières, alors que des gens comme Elon Musk et ses amis de la tech veulent pouvoir continuer à faire venir typiquement des Indiens surdiplômés en maths pour faire tourner leurs algorithmes. Voilà, donc ça c'est... juste pour terminer là-dessus, après je répondrai à l'autre question, et puis il ne faut pas que je monopolise la parole. Je fais un peu de pub pour le livre de Thomas Gomard, qui est mon patron à l'IFRI. Donc,
il vient de sortir.
Voilà. Et oui, il vient de sortir un livre qui s'appelle Qui contre qui ? Non ? Qui contrôle qui ? Merci François. Dans lequel il explique tout un tas de choses sur l'état du monde géopolitique aujourd'hui. Et dans chaque chapitre, il met des couples opposés. Donc par exemple, il fait Trump contre Ursula von der Leyen. J'oublie les autres. Enfin voilà, c'est à chaque fois des dualités opposées comme ça avec des personnages. Et le dernier chapitre du livre, qui est à mon avis le plus innovant, enfin j'avais jamais vu ça, c'est très très intéressant, il oppose la Silicon Valley contre le Vatican. Et donc c'est tout ce que je viens de vous dire. Voilà, donc c'est très intéressant, je recommande son livre. Alors maintenant, pour répondre à votre question, monsieur, qu'est-ce que c'était déjà ?
Et sur la constitution américaine, est-ce qu'il peut changer ? Parce que finalement, les juges fédéraux vont pas lui limiter le pouvoir.
Alors je discute beaucoup avec les autres américanistes français, on se connaît bien, on a un fil WhatsApp, on discute sans cesse. Et de plus en plus, on discute exactement de la question que vous posez. Et on a le camp des optimistes et le camp des pessimistes. Les pessimistes disent... Pendant le premier mandat, on continuait à croire que Trump, on pensait que Trump c'était un accident, qu'il allait disparaître et que ça allait très bien se terminer. D'ailleurs, c'est ce qu'on a cru quand Biden a été élu, que Trump, on n'allait plus en entendre parler, et que la Constitution américaine serait suffisamment résiliente pour que tout rentre dans l'ordre. Et c'est ce qu'on a pu penser en 2020. Et puis voilà que Trump est réélu. Et qu'il arrive cette fois-ci, donc on le voit depuis un an, avec un projet extrêmement brutal, extrêmement résolu, avec des types qui ont réfléchi pendant 4 ans à comment ils allaient s'y prendre, et le Doge, et l'immigration.
Le Doge, donc, c'est la restructuration de l'État.
Par Elon Musk pendant les premiers mois de l'administration, les rafles d'illégaux, donc ça c'est pour l'immigration, la guerre tarifaire tous azimuts, les attaques contre les universités, les cabinets d'avocats, la presse, enfin voilà, cette espèce de rouleau compresseur illibéral que nous voyons depuis un an. Et donc, mes amis pessimistes disent, on avait pu croire à la résilience la première fois, mais cette fois-ci, c'est foutu, c'est vraiment tellement horrible ce qui se passe, et c'est vrai qu'un jour sur deux, on se lève, on regarde le journal et on a envie de se cacher sous son lit tellement il vient de se passer un nouveau truc horrible, en direct de la Maison Blanche. Mais moi, je pense, continue à être optimiste, je pense que les contre-pouvoirs n'ont pas disparu, notamment les contre-pouvoirs, même au Congrès, les cours de justice continuent à rendre des arrêts qui ne vont pas pour... qui vont contre ce que veut Trump. La Cour suprême va probablement rendre un arrêt sur les questions douanières. Et puis, c'est un immense pays fédéral, donc il y a des élections dans les États. Il y en a une au Texas hier, où c'est un démocrate qui a été élu à la stupéfaction générale. Bon, enfin bref, je pourrais multiplier les exemples, mais comme je veux me taire, je termine juste en disant que je pense que c'est un pays de 350 millions d'habitants qui a une expérience, une pratique de la démocratie ininterrompu depuis 250 ans, et que donc il y a beaucoup de types horribles autour de Trump qui pensent comme lui ou pire que lui, etc. Mais l'immense majorité des Américains, même chez les républicains modérés, il y en a encore, sont à mon avis des gens qui sont encore aujourd'hui des gens, comme on dit en anglais, des gens décents, vous voyez ce que je veux dire, des gens qui sont raisonnables, qui sont attachés à leur constitution, qui sont attachés à leur histoire, à leur pays, etc. Et qui ne pourront pas accepter un glissement vers l'illibéralisme. Et donc, je continue à penser que les États-Unis ne vont pas devenir la Hongrie ou la Turquie ou la Russie.
On parlait tout à l'heure des élections mi-mandat. Et effectivement, toute la question, c'est de savoir si ça se passera correctement et s'ils accepteront le résultat.
Exactement, ça va être en effet un test,
ça, c'est en novembre.
Un test très, très, très important. Ouais. Et je n'ai pas de boule de cristal.
Oui, je voulais intervenir sur deux points. Le lien entre la Silicon Valley et les... Moi, je vais être beaucoup plus brutal. C'est l'argent, c'est tout. C'est le lien qui fait basculer des gens qui étaient totalement démocrates à totalement Trump, tout simplement parce qu'ils gagnent de l'argent. Et sur la... sur l'immigration, ils ont besoin de l'immigration indienne. Parce que pour faire fonctionner la Silicon Valley, si vous n'avez pas les Indiens, ça ne fonctionnera pas. Donc je crois que c'est... Le deuxième point qui me fascine, c'est qu'on parle du droit et de la force. Et si je me souviens bien, dans le thème au départ, il y avait l'Europe. Et on ne parle que des États-Unis. Et ça, il faut qu'on l'oublie. Il faut que tous les quatre ans, même pour les midterm elections, on ne se pose pas la question de comment vont voter les électeurs de l'Ohio, du Kansas ou de je ne sais pas quoi. Mais comment, nous, on veut être. Vous avez vu que ce matin, X a été perquisitionné.
L'ancien Twitter.
Hein, l'ancien Twitter a été perquisitionné. C'est pas anodin. Oui, en France. Mais c'est pas anodin. Parce que l'Europe est en train, c'est doté déjà. Et c'est pour ça que l'Europe, pourquoi l'Europe est devenue une ennemie? Parce que les Européens commencent à se réveiller et ne sont plus un marché ouvert, fantastique, 450 millions d'habitants, éduqués, avec des moyens. C'est un marché fantastique pour les États-Unis. Dans mon domaine que je connais un petit peu, le domaine de la défense, regardez, on parle toujours du F-35. Pourquoi l'avion F-35? Les Américains ont réussi à l'imposer à d'autres pays européens, la France n'est pas dans ce cas-là, pour une raison simple, en leur disant, c'est le seul avion qui vous permettra de porter la bombe nucléaire. Fantastique. Sauf qu'on oublie que la bombe nucléaire, elle est américaine. Donc c'est pas parce que vous avez un avion allemand qui transporte la bombe américaine que c'est l'allemand qui va décider. C'est évidemment l'américain qui va décider. Sans compter que le F-35, c'est encore plus sophistiqué que ça. Il est obligé de se connecter en permanence à son cloud qui est aux États-Unis. C'est-à-dire qu'à tout moment, on pourrait couper la liaison et on ne servirait plus de ces avions. Donc le marché européen était un marché fantastique dont on disait ça va faire le bonheur de toutes les entreprises américaines. Et là, malheureusement, on commence à se rebeller, et sur le numérique en particulier, qui est un point particulier, parce que non seulement c'est beaucoup d'argent pour les compagnies de la Silicon Valley, mais en plus, dans le domaine qu'on a évoqué, le domaine politique, c'est extrêmement important. Parce que l'influence, je vous recommande un bouquin remarquable, vous connaissez tous de Gennaro Giampoli, le bouquin Le Match du Kremlin, mais il faut lire celui d'avant. Les ingénieurs du chaos. Non, il a été écrit avant. Sauf que, comme il n'avait pas eu de succès, on l'a réédité après le match du Kremlin pour le faire connaître. Parce que personne ne l'avait lu avant. Alors que c'est un bouquin fabuleux. Et il vous parle des influences. Et nous, on parle souvent de la Russie parce que l'Ukraine, etc., etc. Mais ceux qui ont commencé, ce sont les États-Unis. Bannon et compagnie. Et la mise en place du dispositif de désinformation, d'influence dans les élections, qui est absolument considérable. Donc, mon point est simplement pour revenir au sujet sur l'Europe. L'Europe commence à se réveiller. Il faut se réveiller sérieusement. Il y a probablement des sacrifices à faire, mais c'est en marche. Et ça commence par des citoyens qui regardent objectivement les choses et qui sont capables de faire la part des choses dans ce qu'on leur annonce sur l'utilisation de la force aujourd'hui.
Donc la parole est aux citoyens.
Je propose deux questions à nouveau.
Oui.
On accuse quelquefois Trump de vouloir semer le chaos, pour reprendre le titre du livre, pour justement justifier l'abandon des élections, etc. Et même certains romanciers en ont fait le thème d'une future guerre civile aux États-Unis. Je pense à Douglas Kennedy. Donc, est-ce que c'est un scénario qui peut exister ou est-ce que vous pensez vraiment que dans votre optimisme que je révère, vous pensez que les Américains vont réagir positivement?
Allez-y, peut-être. Ah, c'est complètement différent, votre question. Oui. Bon, on va.
Non, mais c'est Laurence qui devrait répondre, mais elle est trop timide. Moi, je. Encore une fois, c'est très, très difficile d'anticiper ce que va faire Trump. Dans l'affaire de Minneapolis, qui est l'espèce d'illustration de votre.
Près du micro.
Dans l'affaire de Minneapolis, hein, qui est l'illustration de ce que vous voulez dire, on pouvait penser que. Son objectif, c'était précisément de créer une situation de conflit de façon à instaurer l'état d'urgence et à créer, ce que vous dites, un îlot de chaos de façon éventuellement à empêcher des élections ou enfin à accroître son autorité ou l'autorité de son gouvernement en s'affranchissant des règles constitutionnelles classiques. Et en fait, il a plutôt reculé. Et il a plutôt, à un moment donné, joué la carte de l'apaisement. Mais là, un certain nombre d'observateurs disent « Mais attention, c'est une pause. » En réalité, il va reprendre, à un moment ou à un autre, l'escalade pour créer ce que vous appelez le chaos, une forme de déstabilisation. Et il y a des signaux dans ce sens qui viennent dire sur « les républicains devraient prendre... le contrôle d'un certain nombre d'États trop corrompus pour qu'on leur confie les élections, c'est peut-être un test. Ils voient comment, effectivement, le corps social réagit. Moi, je n'exclus pas qu'il recule, si Laurence, l'optimisme de Laurence est justifié, et donc si le corps social américain montre qu'il n'est pas prêt à le suivre là-dessus. Et effectivement, la clé de voûte du système, on a tous pensé que le test ultime, ce serait le système judiciaire. Et évidemment, la clé de voûte du système judiciaire, la Cour suprême, quand même, dont beaucoup de juges ont été nommés par lui, qui sont des archi-conservateurs, d'ailleurs catholiques, presque tous. Et pour l'instant, la Cour suprême... lui a pas donné tort sur un certain nombre de points, mais quand même, là, sur les droits de douane, ça va être beaucoup plus difficile d'avaliser ce qu'il a fait, je crois. Donc, il me semble que Trump est tenté par le chaos. Il me semble aussi, pour résumer, hein, qu'il peut ne pas aller jusqu'au bout si, aux signaux qu'il envoie, il y a une réponse qui est « non, on n'est pas prêt à vous suivre ».
Monsieur.
Et l'Europe doit se réarmer, vous l'avez dit, mais il faut des soldats. Alors, on parle effectivement du retour du service national volontaire. Bon, est-ce que ces jeunes sont prêts? La notion de patrie perd un peu de son influence. Ces jeunes voyagent dans le monde entier. Ils ont été bercés à l'idée de la doctrine zéro mort, du soft power. On leur demande aussi de s'engager au niveau européen, parce que sinon, ça n'a pas beaucoup de sens. Bon. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire et que ça arrivera peut-être. Mais qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui?
Alors, juste deux points. Je pense que c'était à moi que ça s'adressait. Juste deux points. Le premier point, je n'ai pas du tout votre pessimisme sur la jeunesse. Je les rencontre beaucoup et je suis très, très impressionné. En particulier, la jeunesse jeune, j'allais dire, celle entre 18 et 25 ans. Les sondages sont ce qu'ils sont, mais 60%, 65% disent qu'ils sont prêts à s'engager pour défendre leur pays. On n'a pas parlé de l'Europe, leur pays. Et oui, oui, garçons et filles, oui, le sondage ne fait pas de différence. C'est le premier point positif. Le deuxième point, il faut des soldats, vous avez raison, et nous n'avons plus d'enfants. Ça, c'est un vrai sujet. Vous parlez du service militaire volontaire. Pourquoi je dis non, on n'a plus d'enfants? Parce qu'on est, vous savez que le taux de remplacement est de 2,2 à peu près, on dit 2,1 mais c'est 2,2 le taux de fécondité. Et aujourd'hui, il est à 1,63. Il y a des pays où c'est pire que ça. Il y a des pays où il est à 0,70. Quel est le pays qui est à 0,70?
La Corée du Sud.
Et la Chine. La Chine va perdre 350 millions d'habitants dans les 10 ans qui viennent. C'est un facteur à prendre en compte sur la puissance chinoise quand même. Donc je reviens simplement sur nous, les Européens, parce que les Français, on était les derniers à être à peu près bons. Puis il y a 5-6 ans, ça a commencé à baisser. Le service militaire volontaire, vous l'avez vu, c'est 3 000 cette année, puis ça augmente jusqu'à 50 000. Les armées françaises aujourd'hui, c'est 200 000. C'est-à-dire que quand on sera à 50 000, c'est un quart de l'armée française qui, tous les ans, sera formée en plus des 200 000 pour former des réservistes. Donc, c'est un phénomène important parce que, démographiquement, nous sommes en train de chuter. Alors, ça a des effets sur, bien sûr, le nombre de soldats, mais sur la conduite de la guerre. Le chef d'état-major me disait, 2035, la première ligne seront des robots. On est en train de les construire, des drones et des robots. Aujourd'hui, en Ukraine, c'est déjà le cas. Des drones et des robots. Alors vous me direz, c'est face à la Russie qui a une situation démographique pire que la nôtre. Donc
ils ont perdu 1 million d'hommes.
Oui, en plus ils ont perdu beaucoup d'hommes là. Donc c'est mais je reviens sur mon premier point. Ne croyez pas que les jeunes ne soient pas des jeunes engagés. Moi je vais la semaine prochaine. On m'invite dans des universités, dans des lycées. Et si on m'invite, c'est parce qu'ils sont engagés. Alors vous me direz, ceux que je rencontre, évidemment, ils sont engagés. Mais ça veut dire qu'il y a des jeunes très engagés. Et vous savez, le service militaire volontaire, les 3000, en une journée, il y avait le nombre de volontaires. Donc, je n'ai pas de crainte sur ce sujet-là. J'ai beaucoup plus de crainte sur le long terme, sur notre capacité à avoir autant de soldats dont on a besoin. Mais encore une fois, je le disais, face à une Russie qui est en train de se dépeupler et qui fait tuer ses enfants aujourd'hui sur le terrain, on en aura peut-être besoin de moins. Et encore une fois, la robotisation va gérer beaucoup de ces problèmes.
Oui, madame.
Si, comment on fait ? Vous entendez ?
Oui. Oui, parlez, mettez le micro.
Oui, je voulais poser une question sur les questions de défense européenne. Qui est un sujet très complexe et j'aurais voulu avoir votre avis général. Parce que, d'une part, l'Union européenne n'a pas de compétences en matière de défense. Donc, actuellement, ce sont des pays volontaires qui agissent, qui sont censés agir ensemble. Et par ailleurs, une grande partie des forces européennes sont dans l'OTAN. Or, l'OTAN est sous contrôle américain. Donc, je trouve que la question est très difficile. Comment vous voyez les choses ?
Vous avez raison. Aujourd'hui, la défense de l'Europe est assurée par l'OTAN. L'OTAN sont les Européens plus les Américains et les Canadiens. Les Européens avaient oublié que la défense existait et pendant 30 ans, on s'est désarmé. 30 ans. Et on ne remonte pas 30 ans de désarmement en 3 ans. Donc, on est en train de se réarmer actuellement. On donne un horizon à 5 ans pour avoir reconstitué. Et vous avez raison, l'Union européenne n'a pas ces compétences-là. Donc qu'est-ce qu'on fait ? C'est renforcer le pilier européen de l'OTAN pour que la défense de l'Europe puisse être faite par des Européens. La grosse question, parce que dans 5 ans, on espère avoir les moyens, je le répète, face à une Russie qui n'a toujours pas réussi à vaincre l'Ukraine au passage, hein. Donc elle n'a aucune chance contre l'ensemble des forces européennes. Mais la question, c'est une question de ce qu'on appelle en américain « leadership ». Comprenez que les Européens, quand il y a un Américain, suivant l'expression, qui a un gros de 120 kilos qui parle à un petit de 60 kilos, on l'écoute. Ben, c'est un peu ça. Le chef américain, tout le monde l'écoute. Tout le monde est le petit doigt sur la couture du pantalon. Mais ce n'est pas nous qui demandons qu'ils s'en aillent. C'est eux qui veulent s'éloigner. D'ailleurs, dans la revue de défense stratégique américaine, ce n'est pas immédiat, mais ils annoncent que les Européens devront prendre plus leur poids. À quel moment voudront-ils se dégager pour que ce soit des Européens qui commandent ? C'est la vraie question. Parce que nous, Français, on a été biberonnés par le général de Gaulle. Donc indépendance, autonomie, tout ça, on connaît ça par cœur. Les autres pays européens, pas du tout. même les Allemands, la Bundeswehr n'a été créée que dans le cadre de l'OTAN. Donc, il faut convaincre. Je vois aujourd'hui un point clé. Il faudra être attentif au mois de février. Le président de la République va prendre la parole sur la dissuasion nucléaire et les intérêts vitaux français étendus à l'Europe. Les Allemands, les Scandinaves en parlent aujourd'hui. Ils disent oui, nous avons des discussions sur ce sujet. Et donc, c'est un sujet clé. Je reviens au F-35 portant la bombe américaine. Donc, aujourd'hui, reconstruire les Européens au sein de l'OTAN pour qu'ils prennent du poids et que le jour où les Américains décident bah, « c'est plus notre job, maintenant l'ère d'influence européenne c'est votre problème », qu'on soit prêt. Et le problème qui se posera, c'est un problème de leadership, parce que les Américains passent avec une grosse voix, tout le monde écoute, qui aura une grosse voix pour parler en Europe demain? Voilà.
Monsieur. C'est une question un petit peu différente qui ne porte pas sur la défense, mais écoutez, je la pose quand même. On a parlé, vous avez parlé tout à l'heure, à juste titre, des liens civilisationnels en termes de valeurs entre l'extrême droite en France, en Europe, et certains courants qui ont été identifiés aux États-Unis. On parle aussi de connivence entre l'extrême droite, me semble-t-il, et la Russie, en certains domaines. Voire il y a aussi la question des mouvements orthodoxes en Russie opposés à enfin qui font part du déclin de l'Europe en matière éthique, civilisationnelle, etc. Est-ce qu'il est possible de dire quelque chose sur des connivences possibles ou réelles entre l'extrême droite européenne et certains courants de la Russie, où la question n'est pas pertinente?
Charles Duclos.
Bah, si, c'est une question en tous les cas très, très troublante. Hein, parce que là, je vous ai dit l'aile civilisationnelle, la big tech, il faudrait ajouter effectivement cette espèce de fascination, complicité avec la Russie qui forme une sorte de tripode. Alors, chez Trump lui-même, il y a un côté vieux monsieur. Il est resté dans la guerre froide, en ce sens qu'il croit encore que la Russie est un pays d'une superpuissance. Et il n'a pas encore compris la décadence. Malheureusement pour nous, c'est un type de la guerre froide, version compagnon de route. Alors, dans nos propres pays, il y a l'AFD qu'on a mentionné, puis la droite française, l'extrême droite française, qui est fascinée par la Russie. Alors là, pour des raisons multiples, il y a cette illusion effectivement d'une affinité dite civilisationnelle, c'est-à-dire chrétienne, qui est quand même extraordinairement paradoxale, parce que il n'y a pas de pays plus déchristianisé que la Russie, où le taux d'avortement est épouvantable, les gens ne vont plus à l'office depuis des générations, mais Poutine a eu l'habileté de faire croire que ça reste un bastion du christianisme. Et de même qu'il y avait à l'époque communiste des idiots utiles, ces ballots pour croire à l'espoir communiste, il y a quand même dans nos pays, en France, en Europe et aux États-Unis, des gens qui croient à cette histoire d'affinité civilisationnelle avec la Russie. Alors après, ça prend des teintures un peu différentes selon les pays. En France, vous savez, il y a une russophilie qui remonte à la fin du 19e siècle, parce que la Russie était perçue comme le contrepoids à la menace allemande. Et puis ça replongeait aussi sur des choses très plus anciennes encore. Les Cosaques avaient bivouaqué sur les Champs-Élysées, mais nous avions incendié Moscou, donc ça créait des liens, en quelque sorte. Et moi, j'ai connu les années 70-80, quand le mouvement antitotalitaire s'est émancipé de cette admiration pour la Russie. Quand François Mitterrand est arrivé, il a donné une traduction politique en opérant pendant quelques années un gel des relations avec la Russie, parce que c'était le moment où la Pologne était très menacée, et heureusement en France on est encore plus pro-polonais que pro-russe. Mais dès que cette affaire a été terminée, que Gorbatchev est arrivé, on a renoué avec notre tradition russophile. On s'est dit, bon, bah, ça y est, le mauvais moment est passé. Et après ça est arrivé Poutine, et cette fascination quand même d'un nombre de gens incroyables en France pour le personnage de Poutine qui rétablissait la grandeur de la Russie toujours perçue inconsciemment comme un contrepoids, non plus cette fois-ci à la menace allemande, mais à l'hégémonie américaine.
Y compris à l'extrême gauche.
Y compris à l'extrême gauche. Donc là, pour rejoindre un peu ce qui a été dit, pour que les Européens se prennent en main vraiment dans ce monde des impérialismes qui surgit, il faut bien sûr qu'ils s'en donnent les moyens, comme on l'a dit, dans tous les domaines, mais ça commence d'abord par une révolution mentale, culturelle, intellectuelle. Et il faut qu'on prenne la mesure de qui est quoi dans le monde et où est notre vraie place. Et là, je rejoins le général Trinquant sur le fait que les jeunes gens ont quand même ce mérite qu'ils se font moins d'illusions et sur les États-Unis et sur la Russie, ce qui explique la raison pour laquelle ils sont davantage prêts à s'engager, surtout qu'en plus le sentiment européen a aussi beaucoup progressé. Donc ils savent très bien que si la Pologne est envahie, l'Allemagne est envahie, bah, la France sera pas loin. Quoi.
On a vu en Ukraine qu'une société dont on pensait qu'elle ne résisterait pas, finalement, c'est cristallisé. Il y a une résistance de la jeunesse.
Et sur l'Ukraine, ce qui est très très frappant, c'est qu'en France, tout le monde ignorait l'Ukraine. Et au fond, cette idée que l'Ukraine devrait revenir à la Russie, ça ne choquait pas beaucoup de gens, il faut le reconnaître. C'est le fait que les Ukrainiens se sont conduits comme ils se sont conduits, c'est-à-dire comme les Français pendant la Première Guerre mondiale, qui fait qu'on a commencé à les regarder autrement. Pas tout le monde, hein. Il y a encore beaucoup de gens qui pensent qu'au fond, c'est un peu casse-pied, qu'ils ne cèdent pas à la Russie, vivement qu'on en finisse. Mais quand même, et notamment dans la jeunesse, cette idée que les Ukrainiens sont devenus des Européens et que leur sort est lié au nôtre, ça a quand même beaucoup progressé, je crois.
Je voudrais juste un petit peu prolonger, puisque vous parliez de l'extrême droite, vous l'avez cité, il ne faut pas oublier l'extrême gauche. Hein. LFI, déclaration de M. Mélenchon hier ou avant-hier, en disant qu'il fallait absolument que la Russie appartienne à l'Europe et qu'il fallait organiser des référendums dans le Donbass pour savoir si ça appartenait à la Russie ou pas. Je rappelle qu'il y a déjà eu des référendums sous occupation russe qui ont déjà donné le résultat. Donc voilà, on savait qu'il aimait beaucoup passer ses vacances au Venezuela, mais en plus, il aime beaucoup la Russie de M. Poutine.
À mon tour d'ajouter quelque chose sur cette histoire de lien idéologique entre les extrêmes droites européennes et russes. Il y a en effet aujourd'hui une collusion, enfin en tout cas un mouvement commun des extrêmes droites américaines, européennes et russes pour défendre toutes ces idées de nationalisme, de civilisation européenne définie de manière très réactionnaire, couleur de peau, religion, etc. Bon, voilà. On en pense ce qu'on veut, mais je pense que la séquence qu'on vient de vivre avec le Groenland a quand même fait un peu bouger les choses. Parce que la définition d'un parti nationaliste dans n'importe quel pays, c'est que on va défendre son précaré contre les autres pays. Enfin, le nationalisme, c'est ça. Et en réalité, on a vu les partis d'extrême droite européens très troublé par la revendication de Trump sur le Groenland, parce que tout à coup, il voulait nous prendre un bout de territoire alors européen, danois. Et il a été très intéressant d'observer la réaction des partis d'extrême droite européens face à cette revendication américaine. En France, par exemple, silence radio chez Zemmour. En revanche, Bardella s'est exprimé en disant qu'il n'était pas du tout d'accord. Et dans les pays d'Europe centrale, il y a eu un silence gêné en Hongrie, etc. Mais l'AFD a dit qu'elle n'était pas d'accord non plus. Donc on peut voir des réactions qui ne sont pas unanimes des partis d'extrême droite européens, mais certains disent quand même qu'ils n'étaient pas d'accord. Et donc on voit bien, au bout du compte, que l'international des partis nationalistes, l'international nationaliste, bah ça peut pas marcher très longtemps, parce que exactement, c'est un oxymore. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les libéraux, puisque enfin voilà.
Merci. Louis.
Voilà, je prends la parole pour clôturer cette soirée, pour remercier beaucoup l'assistance pour son écoute attentive, nos intervenants, ça va de soi, pour la qualité de leur intervention. Un très grand merci. Je remercie aussi la revue Études et le journal La Croix, qui portent avec les facultés l'organisation de ces mardis d'éthique publique. Je précise 2-3 éléments. La première chose, c'est que, si vous le souhaitez, vous pouvez participer à l'organisation de ces mardis d'éthique publique. Il y a des urnes à la sortie. La deuxième chose, c'est que si la question du politique vous intéresse, vous avez des tracts qui s'appellent « Penser le politique » et qui recensent les cours grand public proposés en théologie politique ou en philosophie politique au sein des facultés. Voilà, l'ensemble des propositions est résumé dans ces tracts qu'on trouve aussi à la sortie. Il y a énormément de choses à la sortie en réalité. La troisième chose, c'est que, comme d'habitude, on annonce le prochain mardi d'éthique publique. Il aura lieu le 3 mars à 19h15, mardi 3 mars. La question sera la suivante. L'échelle municipale peut-elle redynamiser la vie politique? L'échelle municipale peut-elle redynamiser la vie politique? On ne quitte pas donc le politique. Encore une fois, merci beaucoup à vous. Merci de votre présence et bonne soirée.